Madame Aminata Touré, vous êtes présidente du CAD Mali. C'est quoi exactement CAD Mali?
Bon, merci bien. CAD Mali, c'est la coalition des alternatives africaines d'aide et développement qui est née de la campagne internationale Jubilé 2000, la campagne pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde. Donc, nous sommes dans la campagne depuis 1998. Et c'est en 2001 que nous avons créé, au niveau national, après la campagne Jubilé 2000, CAD Mali. Et après des activités de 2001 à 2005, après une évaluation, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous pouvons prendre un autre nom, la Coalition des alternatives africaines d'aide et de développement, parce que la campagne est terminée au niveau international d'une manière générale. Mais la campagne continue, organisée au niveau national, et on se retrouve au niveau international.
Qu'est-ce que vous faites avec le CAD Mali?
Donc, nous nous intéressons au problème de la dette d'une manière générale. Donc, notre objectif principal, c'est l'annulation de la dette de nos pays endettés. Et en même temps, nous nous intéressons à toutes ces politiques qui sont en train de construire cette dette, qui sont en train de construire la pauvreté au niveau de nos pays, au niveau des communautés. Donc, nous agissons sur l'accord de Cotonou et les DRSP, les documents de réduction de la pauvreté qui ont donné naissance au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Nous nous intéressons aussi au NEPAD, nous nous intéressons à l'AGOA, entre autres. Donc, toutes les politiques internationales qui sont en train et de construire le système de pauvreté, le système d'endettement, on s'intéresse. Au niveau national aussi, on s'intéresse aux politiques, aux décisions prises par nos gouvernements. Donc c'est au niveau international que nous agissons et au niveau international. Au niveau national et au niveau international.
Vous dites un système d'endettement. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela?
Bon, ce système d'endettement, on le comprend parce que nous voyons qu'aujourd'hui, l'État est bloqué. L'État est bloqué. Il ne fait plus son devoir auquel il s'est assigné. Et l'État n'arrive plus à remplir les fonctions parce que l'État, il y a la Constitution qui est là. Dans la Constitution, il est dit que l'État doit s'occuper de l'éducation, de la santé, de l'habitat, du bien-être des communautés. Mais qu'est-ce qu'on voit? L'État s'est désengagé de tout cela et les communautés sont restées à eux-mêmes. Ce sont eux qui s'organisent pour leur bien-être social. Donc on s'est dit, c'est quoi? On s'est intéressé, on a vu que c'est le problème de la dette. Parce qu'aujourd'hui, nos États préfèrent rembourser la dette que de s'occuper d'injecter de l'argent dans l'éducation ou la santé. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de miner les populations au niveau local. Et donc c'est pour cela que tous les citoyens au niveau national se réunissent à travers des organisations, des mouvements sociaux. On s'est donné la main pour créer cette coalition et continuer à lutter pour qu'on ne nous réclame plus une dette, pour qu'on ne paye plus une dette auquel on n'a jamais été associé de l'élaboration jusqu'au moment où on dit de rembourser. Donc c'est une dette qu'on ne reconnaît pas. Donc nous pensons que nous ne devons pas payer quelque chose qu'on ne reconnaît pas.
Pourquoi votre État paye cette dette alors si elle ne vous appartient pas?
Bon, on ne sait pas pourquoi l'État paye cette dette. Nous, quand même, au niveau du mouvement social, nous sommes en train de chercher à comprendre d'abord les mécanismes de la pauvreté. Pourquoi on est pauvre? Est-ce que la pauvreté, c'est une fatalité? Est-ce qu'on doit rester, dire qu'on est pauvre, on reste? Non, il faut qu'on cherche pourquoi il y a cette pauvreté. Et on a vu qu'avec l'application des différents programmes d'ajustement structurel, peut-être qu'on va parler plus tard des programmes d'ajustement, qu'il y a un système où il n'y a plus l'État, mais il y a des communautés qui s'organisent, pour leur bien-être social et leur bien-être économique. Donc, nous, on s'est dit que c'est vraiment injuste qu'on continue à payer de l'argent, des dizaines de millions, par exemple, au niveau du Mali, environ 70 milliards de francs CFA que l'État débourse tous les ans pour le remboursement des services de la dette. alors qu'il ne met pas autant, même pas la moitié, pour les services sociaux de base.
Mais est-ce que l'État malien n'est pas obligé de payer ses dettes? Parce que, en fin de compte, sur les comptes bancaires, le Mali est endetté.
Bon, sur les comptes bancaires, le Mali est endetté, mais pour le moment, nous, quand même, on s'est dit, en tant que représentant de la communauté, on dit qu'on ne paye pas. Parce qu'il faut que l'État s'occupe du peuple malien avant de s'occuper d'une politique extérieure. Ça, c'est notre première préoccupation. Deuxième chose, nous sommes au niveau de notre coalition CAD Mali. Nous venons de commencer une étude sur la dette que nous n'avons pas encore finalisée. Là, nous voulons voir l'argent de la dette a servi à quoi, très clairement, et pour l'attaquer ensuite. Donc, nous venons de finaliser la dette et l'étude, et nous allons faire la restitution bientôt, comme on a eu à le faire dans le cas de l'utilisation des fonds de l'initiative PTTE. Nous allons faire une restitution avec les représentants du gouvernement et nous allons discuter sur le système d'endettement au niveau du Mali. Mais selon les chiffres qu'on a eu quand même, on a vu que d'année en année, il y a la dette qui est en train d'augmenter d'une manière insupportable pour l'État même et pour les communautés.
Pardon. Le Mali est un des pays le plus pauvres au monde. La dette actuelle, elle vaut combien?
La dette actuelle, c'est environ 1 800 milliards de francs CFA, la dette actuelle du Mali. Alors que pendant les années 74, elle était très, très bas, très insignifiant. C'était environ 400 millions de francs maliens.
Millions
de francs maliens, d'après ce que j'ai eu comme information. 154 francs maliens. Bon. Donc, je disais, en 1974, la dette extérieure du Mali, c'était environ 79 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, en 2005, nous sommes à 1 800 milliards de francs CFA. Vous voyez l'évolution de 1974 à 2005. Et cela est dû aussi parce qu'il y a eu la dévaluation en 1994 où la dette était environ 900 millions de francs CFA. Et donc, avec la dévaluation, ça a aussitôt doublé pour être 1 600 millions de francs CFA. 1 600 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez, donc il y a certaines choses qui font que et justement, la dette est en train de se multiplier. Il y a d'abord la dévaluation, il y a les fluctuations du dollar, il y a aussi leur taux d'intérêt, parce qu'avec les allègements, ce n'est pas des allègements où il faut effacer la dette, c'est des réchelonnements. Donc, ça joue aussi sur le taux d'intérêt de la dette. Donc, il y a beaucoup de mécanismes que les créanciers utilisent pour augmenter le taux de la dette. Donc, nous pensons que quand on prête à 100 francs, tu dois rembourser 100 francs. Et si l'intérêt, c'est 10 francs, on ne paye que 110 francs. Donc, d'aucune manière, ce montant ne doit pas être changé selon l'humeur du créancier. Donc, nous pensons que cela est injuste, ce qu'on nous réclame. Sinon, il n'est pas interdit de s'endetter. Mais il faut s'endetter d'une manière équitable et rembourser d'une manière très juste. Donc, il ne faut pas qu'on nous réclame ce qu'on n'a pas consommé, ce qu'on n'a pas pris.
Mais même si on met la dévaluation de part, comment est-on arrivé à ce montant de 800 milliards de... 1 800 milliards de francs CFA.
Donc, il y a des moments où vraiment on n'avait pas pu rembourser la dette parce que on n'avait plus assez de recettes avec le marché international où les cours du coton ont chuté.
Mais
le prix de l'or a chuté. On n'a pas assez de recettes. Donc, c'est un autre facteur. J'ai bien dit qu'il y a plusieurs mécanismes. Il y a la dévaluation, il y a le taux du dollar, mais il y a aussi le marché international, donc entre autres. Donc, ils ont plusieurs mécanismes pour augmenter la dette extérieure.
En juillet, 1,5 milliard de dollars a été annulé sur le sommet du G8 à Gleneagles, en Écosse. Content?
Bon, en juillet, il y a eu une annonce d'annulation de la dette. Cette annonce d'annulation de la dette, ça ne représente pas la dette extérieure tout entière dont nous nous souhaitons. Notre objectif, c'est l'annulation à 100% de la dette extérieure de nos pays endettés. Ce n'est pas une annulation partielle et surtout des effets d'annonce. Parce que les effets d'annonce, on en a entendu depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois. Depuis Toronto jusqu'à Cologne et presque tous les ans, on nous fait des effets d'annonce et on ne voit pas l'impact réel au niveau des comptes du Trésor. Donc, ce n'est que toujours de la politique politicienne. Ils font semblant d'annuler, mais réellement, on n'annule pas. Même s'ils annulaient, ils ont aussi une autre manière, parce qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est qu'il y ait un consensus autour des APE, donc l'ouverture de nos frontières. Donc, il y aurait une autre manière à travers les APE.
Parce que les APE.
Les accords de partenariat économique de l'accord de Cotonou. On sait que nos pays ne sont pas préparés pour aller vers une ouverture. On n'a pas les mêmes poids. Donc, deux objets qui n'ont pas les mêmes poids, si tu les confrontes, il y a un autre qui va se casser quand même. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour aller vers l'ouverture totale de nos frontières, la libéralisation de nos économies. Donc, il faut qu'on nous donne un temps de construire au niveau des industries, un temps de construire au niveau du social, parce que on n'a pas l'école de qualité qu'il faut, la santé de fer qu'il faut pour affronter. Et au niveau des industries, comme je vous l'ai dit, l'énergie coûte très cher aujourd'hui pour les industries maliennes qui sont très, très petites. Qui ne sont pas des grandes industries, des petites industries. Donc, on n'a pas tous les moyens pour aller faire cette confrontation. Donc, ils vont essayer de dire qu'ils vont annuler. Bon, ils vont avoir une autre manière de le récupérer. Donc, ce n'est que des effets d'annonce, ce n'est que de la politique politicienne.
Donc, vous dites que le Mali, en fait, c'est endetté, c'est dû endetté pour pouvoir se développer, c'est ça?
Au début des indépendances, on sait qu'on a eu une indépendance politique, mais il n'y avait pas d'indépendance économique. Donc, il fallait un décollage économique. Donc, au début, le gouvernement s'est endetté pour relancer l'économie. Donc, c'était à des taux très bas, très incitatifs. Mais comme ils ont vu que les créanciers ont vu que nous avons envie d'emprunter et de nous développer, ils nous ont donné beaucoup d'argent, mais à des moments où eux aussi, ils voyaient qu'il fallait augmenter le taux d'intérêt, ils ont augmenté le taux d'intérêt parce qu'ils savent que nous, on est dans le besoin. Donc, ils ont augmenté. Donc, ça aussi, ça joue sur le montant de la dette. Donc, l'argent était pris pour faire des routes, ouvrir des usines. En ce temps, les premières usines, c'était la Cemex. Bon, l'entreprise, c'était la Cemex. Usine, il y avait l'usine qui fait l'huile d'arachide. Il y avait l'usine aussi qui fait les tomates concentrées, qui montait aussi des postes radio. Donc, il y avait beaucoup de petites usines en ce temps. Mais il y a eu des grandes routes comme la route Sévaré-Gao et d'autres routes secondaires avec des aéroports. Donc, les prêts ont permis à faire ceci. Donc, c'est des prêts où il y a eu des experts vraiment du Nord qui nous ont aidés à monter, qui ont aidé nos gouvernements à monter ces projets. On nous a dit que c'était des projets viables. Et c'est vrai, c'est des projets qui ont servi à l'économie et à la vie en société aussi au niveau du pays. Mais à des moments, tout juste, on nous dit ces entreprises ne sont pas viables, il faut les fermer. Donc, c'est là qu'il y a eu l'introduction des programmes d'ajustement structurel qui disait qu'il faut fermer toutes les entreprises qui ne sont pas viables, il faut se désengager de tout ce qui est social, parce que l'État ne doit pas faire du social. Et donc, c'est comme ça que les choses sont passées.
Mais vous dites que les programmes d'ajustement structurel ont été imposés sur l'État malien parce que certaines entreprises n'étaient pas rentables.
Bon, c'est pas parce que les entreprises ne sont pas rentables. Ça, c'est selon les bailleurs de fonds. Ils ont dit que c'est pas rentable. Mais nous ne pouvons pas dire que c'était pas rentable parce que ces entreprises, quand même, ont servi au niveau des villes et des villages, au niveau des communautés, ça nous a servi. Parce qu'au niveau de l'emploi, on n'a jamais eu une crise telle qu'on vit aujourd'hui où il y a beaucoup de chômeurs. Donc, tous nos parents étaient employés au niveau des entreprises ou bien au niveau de la fonction publique. Et aussi, il y avait des produits. Et l'entreprise Somex vendait du sucre, vendait du ciment, vendait beaucoup de choses, donc beaucoup de produits qu'on trouvait à bas prix. Et il y avait d'autres usines qui nous fournissaient beaucoup de services. Donc nous, on ne peut pas dire que c'est rentable, ce n'est pas rentable parce que ça nous servait. Et au niveau aussi de l'économie, on n'a pas appris qu'il y a une crise au niveau de l'économie. Mais la crise a commencé quand on a dit qu'il faut fermer ces entreprises parce qu'elles ne sont pas viables. Sur quels critères ils nous ont dit de fermer, nous, on ne sait pas. Parce que nous, on n'a pas connaissance de ces rapports d'audit disant que telle ou telle entreprise ne sont pas viables. Mais c'est selon, on dit que c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire qui ont dit qu'il faut arrêter d'intervenir dans tel ou tel secteur. Donc c'est ce que nous avons appris de nos gouvernements. Et dans les documentations que nous avons à notre disposition, ce n'est que des obligations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour fermer toutes ces entreprises. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est la misère, une série de misères que les communautés sont en train de vivre. Parce que d'abord, la fermeture, ça a amené le chômage. Beaucoup de familles, parce qu'on trouve dans certaines entreprises, il y a le mari et la femme qui travaillent, et tous ils vont au chômage. Ensuite, l'école, les enfants qui n'arrivent pas à poursuivre l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils sont dans le chômage. Donc, c'est la délinquance au niveau des jeunes. On les retrouve un peu partout dans les rues, dans les villes. Certains sont en train d'avoir de mauvais comportements. Donc, c'est l'effritement de la base de la famille au niveau du Mali aujourd'hui. Donc, le père qui n'a pas assez de moyens, il ne peut pas s'occuper de sa famille. Donc la maman, elle aussi, elle ne peut pas s'occuper. Les enfants, ils sont jeunes, ils sont sans emploi, certains ne vont pas à l'école. Donc, il n'y a plus ce qu'on connaissait avant, où il y a la famille unie, et où on sait que le père, il s'occupe de sa famille, la maman s'occupe de la famille, les enfants respectent, parce qu'aujourd'hui, l'enfant ne peut pas bien respecter. Parce que quand tu ne t'occupes pas de ton enfant, il dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais pour moi? Donc, tu n'as pas d'obligation. Donc, chacun se débrouille. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est le secteur informel qui est en train de se développer. Chacun est en train de chercher à survivre au niveau du rural et au niveau urbain. Donc, des deux côtés, c'est la survie aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est pas... Les Maliens, avant, vous dites ils vivaient mieux, il y avait un peu plus d'argent, ils n'étaient peut-être pas riches, mais ils vivaient bien quand même. Mais est-ce qu'ils ne pouvaient pas vivre meilleur parce que, exactement, le Mali s'endettait? Est-ce que ce n'était pas l'argent de la dette qui arrivait dans les familles?
Bon.
Est-ce que ça n'a pas causé l'endettement?
Parce qu'on vivait mieux, ça, est-ce que c'est l'argent de la dette qui a fait qu'on vivait mieux? Bon, si on s'endettait et qu'on vivait mieux, c'était encore mieux. Mais aujourd'hui, on continue à s'endetter beaucoup plus qu'avant, mais on vit misérablement. Le sac de riz de 100 kilos aujourd'hui, ça fait 40 000 francs CFA, alors qu'avant, c'était moins de 12 000 francs. Il y a 10 ans, c'était moins de 12 000 francs. Aujourd'hui, c'est 40 à 45 000 francs CFA. Bien que l'État est en train de voir comment aider à travers des banques de céréales. Le mille, Aujourd'hui, c'est 20 000 CFA à 25 000 CFA. Avant, c'était 6 000 francs CFA. Donc, vous voyez, on est en train de s'endetter. À quoi sert l'argent de la dette aujourd'hui? Donc, on a dit que cet argent, on ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce que l'État doit continuer à s'endetter? Non. Il faut que l'État arrête à s'endetter de cette manière de la dette qui ne sert pas pour le développement ni social ni économique. Mais cette dette, on ne sait pas, peut-être ça entretient des rapports politiques entre tel pays ou tel pays et tel pays, mais on ne voit pas à quoi sert la dette au niveau du pays, au niveau des communautés, on ne sent pas. Même au niveau des services, quand on regarde dans l'administration, dans beaucoup de services, il manque du matériel adéquat pour faire le travail. Donc nous ne savons pas du tout à quoi sert l'argent de la dette.
Si l'État malien arrête demain de payer les dettes, ils ne vont plus avoir des fonds non plus, des bailleurs de fonds. C'est la conditionnalité impose remboursement de la dette.
Bon, si l'État malien arrête de payer la dette et qu'aucun créancier ne nous donne de l'argent, je sais que nous pouvons encore vivre. D'abord, pourquoi? Si on arrête l'exploitation de nos ressources naturelles qu'on a, l'or, la terre et beaucoup de ressources qu'on a, je crois que ces ressources peuvent servir. Et si on arrive à le vendre, à l'exploiter et le vendre juste d'une manière très juste, équitable au niveau du marché international, je crois que nous pouvons avoir des devises qui pourront nous servir dans le développement au niveau national. Mais si on arrête de donner la dette et que des multinationales viennent encore exploiter nos propres ressources, je crois que nous allons être effacés de la carte de l'Afrique. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ainsi. Si les choses sont justes, si le développement est juste, le Mali pourra s'en sortir. Donc, qu'on nous laisse notre souveraineté, notre liberté d'exploiter et de vendre, d'échanger avec les autres librement. Donc nous pouvons avoir des ressources, des devises qui pouvons nous servir pour le développement de nos pays. Parce que le Mali n'est pas du tout pauvre. On a assez de ressources naturelles qui sont là, qui ne sont même pas encore exploitées. On a le fleuve Niger qui est là, un vaste fleuve Niger. Il y a le fleuve Sénégal qui est là. Il y a les terres au niveau de l'office du Niger qui sont là. Il y a beaucoup de mines d'or, de bauxite, des minerais qui sont là, et sans compter beaucoup de choses qu'on a qui sont des ressources naturelles propres qui peuvent nous servir si on arrive à les exploiter normalement et les vendre normalement, les échanger avec les autres. Je crois que nous pouvons avoir quelque chose qui va nous aider.
Quelles autres conditions, est-ce que les institutions comme la Banque mondiale, FMI et l'Organisation mondiale pour le commerce posent sur le Mali?
Bon, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire, et l'Union européenne, tous ceux-ci sont les mêmes politiques qui se retrouvent et qui tournent de la même manière. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire impose des programmes d'ajustement structurel, impose la privatisation, la libéralisation. L'Organisation mondiale du commerce impose la libéralisation et l'ouverture des marchés. Et l'accord de Cotonou de l'Union européenne aussi impose, parce qu'ils reconnaissent les programmes d'ajustement structurel, donc ils ne demandent pas de lever les programmes d'ajustement structurel, donc ils les reconnaissent. Ils reconnaissent la dette. Ils ne demandent pas d'annuler la dette des pays. Donc, pour eux, s'endetter, c'est normal. Et ne pas annuler, c'est normal. Et aussi, ils veulent qu'on signe aujourd'hui, que nos gouvernements signent les accords de partenariat économique. Et ça, c'est pour aller vers 2008, avoir la même politique que l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, si nos gouvernements acceptent aujourd'hui les APE, Je ne vois pas pourquoi ils ont fait un blocus en 2003 à Cancun pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est des choses qui sont dans un cercle, un même cercle vicieux, et ils se complètent. Donc, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes politiques qui sont en train de miner notre développement social, notre développement humain et nos économies, les économies de nos pays.
Comment la libéralisation et la privatisation pèsent sur le développement de l'économie malienne?
La privatisation, quand on le prend, on sait qu'il n'y a pas d'opérateur économique malien qui est riche et qui peut avoir une industrie pour lui-même, qui peut avoir toutes les qualités qu'on demande. Donc, on privatise et c'est des commerçants, des multinationales, des opérateurs économiques plus riches qui viendront payer nos entreprises à prix très, très bas. Quand on regarde les chemins de fer, ça a été donné à des entreprises multinationales qui l'ont pris à un prix très bas. Quand on regarde l'énergie du Mali, ça a été concédé aussi à un prix très bas. Mais pourtant, ils le prennent à des prix, ils exploitent tout ce qu'il y a comme matériel qu'ils trouvent dans le passif, comme on le dit, tout ce qu'ils trouvent au niveau de l'entreprise. Ils n'investissent rien, mais ils continuent à recevoir de l'argent à travers des services rendus. Et ces services rendus aussi, on trouve que ce n'est même pas de qualité. Quand on prend les chemins de fer de Bamako au Sénégal, les voyages ne sont pas réguliers comme avant, quand ce n'était pas privatisé. Et donc, ils ont aussi supprimé certaines gares. Donc, ils ne rendent pas service comme on le souhaite. Et quand on prend les services de l'énergie du Mali, ils n'arrivent pas à donner de l'eau ou bien l'électricité partout où on le réclame. Et les prix sont très élevés par rapport avant la concession de l'entreprise. Donc, c'est des multinationales qui viennent, ils ont de l'argent, comme le pays a besoin de l'argent toujours pour rembourser le service de la dette. Ils donnent pour avoir quelques milliards qu'ils vont essayer de donner pour le remboursement de la dette. Et donc, ces multinationales s'installent pour exploiter. Donc, ils exploitent l'entreprise comme ils le veulent. Ils licencient aussi une partie du personnel. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la privatisation, ça ne nous sert pas à l'état actuel. Donc, la libéralisation aussi, c'est la même chose. Parce que quand on nous envoie certains produits concurrencer les petits producteurs qui sont là, donc leurs produits vont mourir. Parce que ceux qui viennent vendre moins cher, même si ce n'est pas la qualité, c'est eux qui vont gagner le marché. Ils ont beaucoup plus de moyens pour amener beaucoup plus de produits qui incitent les consommateurs, ils vont le payer au détriment des producteurs qui, avec leur sueur, ils travaillent, ils fournissent des efforts, ils payent des impôts, ils amènent du matériel très cher de l'extérieur pour pouvoir investir, mais ne gagnent pas beaucoup. Parce que le coût leur revient très cher avec le coût de l'énergie, le coût de l'intrant et tout ce qu'ils mettent dans la production. Donc, eux, ils vont mourir. Donc, c'est des phénomènes, des causes pour lesquelles nous ne sommes pas pour la privatisation, la libéralisation. Mais si on nous donne le temps, qu'on nous donne les moyens, qu'on soit aussi fort que les autres entreprises du Nord, pourquoi ne pas accepter d'aller à égal sur le marché international? Il n'y a plus de problème en ce temps. Mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas prêts pour concurrencer. On n'est pas prêt pour concurrencer ces multinationales parce qu'ils ont assez de moyens plus que nos entrepreneurs.
Reprenons l'exemple du chemin de fer. Ça a mené à la création de l'entreprise Transrail. Qu'est-ce qui a changé depuis la privatisation pour le chemin de fer, à part la suppression de certaines petites gares?
Bon, en plus de la suppression des gares, des petites gares, bon, des gares importantes parce que ça sert aux villages riverains des chemins de fer à pouvoir se déplacer d'un village à un autre village ou bien d'une ville à l'autre. Et ça les permet aussi...
Il n'y a pas de route?
Il y a des routes, mais les routes sont très mauvaises dans la région de Kayes. Donc, même cette année, avec l'hivernage, il y a eu beaucoup de petits ponts qui sont cassés. Donc, ça joue sur le trafic routier. Donc, le chemin de fer, la privatisation, on a demandé certaines femmes qui vendaient, qui font le commerce au niveau de Kita à Kayes et vers le Sénégal. Ils ont dit que cette privatisation ne les a pas servi parce que aujourd'hui, ils n'arrivent pas à écouler à temps leurs produits. Parce que c'est des dames qui vont prendre des mangues et des légumes au niveau des producteurs, les zones maraîchères, et viennent mettre dans des containers et les transporter vers le Sénégal et vers la Mauritanie aussi. Donc, ils n'arrivent plus à avoir à temps le container pour amener leurs produits. Donc, elles perdent au niveau de leur commerce. Et les producteurs qui sont dans les villages auprès de qui elles vont ramasser les produits aussi perdent. Donc, ça fait une perte au niveau des villages, au niveau des producteurs, une perte au niveau des commerçants et aussi une perte au niveau des consommateurs et des revendeurs. Donc, voici toute une chaîne de production, de consommation qui est en train de se briser à cause de la privatisation du chemin de fer.
À part la privatisation, il y a la libéralisation du marché aussi. Le coton, le riz, quoi d'autre? Et comment? Oui. Déjà, le coton, le riz, ça fait beaucoup pour le Mali.
Bon, le riz, le Mali, avec l'office du Niger, est capable de produire, de cultiver beaucoup d'hectares de riz. Mais c'est l'office du Niger, c'est surtout des petits producteurs qui sont là-bas avec d'autres qui ont beaucoup plus de moyens, ceux qui vont à l'extérieur ou bien les enfants vont à l'extérieur, ils amènent des tracteurs et qu'ils essaient de travailler avec sur la zone office du Niger. Donc comme je l'ai dit, si on donnait les moyens à l'État de fournir les moyens de production aux paysans, je crois que nous-mêmes, on peut être autosuffisants en matière de sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas les moyens de produire assez, mais c'est du riz qui vient d'autres pays du Nord. On voit des sacs de riz avec éléphants d'Afrique. On voit des sacs de riz avec toutes les couleurs, toutes les marques. C'est vraiment du marketing. Donc, du riz que nous payons pour manger, mais ce n'est même pas du riz de qualité. Donc, ce riz de mauvaise qualité qui vient concurrencer le riz de l'Office du Niger. Parce que l'Office du Niger, avec tout ce que les paysans mettent comme coût de production, ils le vendent plus cher quand même que le riz importé qui vient. Le riz importé coûte moins cher. Et ça vient concurrencer la production locale. Donc, c'est les producteurs à la fin qui vont disparaître et ils vont partir migrer comme n'importe quel Malien qui va ou bien qui cherche à aller ou bien en Espagne ou bien en France ou bien aux États-Unis. Et donc, ce n'est pas le souhait de tout un Malien. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que la libéralisation, ça, c'est une partie. Et l'autre partie aussi, c'est au niveau des barrières frontières. Parce qu'avec les règles, on dit de diminuer les taxes. Avec les accords qui se trouvent entre notre gouvernement et leurs partenaires, il faut diminuer les taxes douanières. Donc, ça fait aussi moins de recettes pour le budget national. Mais on augmente la TVA et c'est le consommateur qui paye beaucoup plus, 18%. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la libéralisation, c'est la concurrence déloyale. C'est aussi la diminution des recettes. Parce que quand on voit aujourd'hui, avec la campagne que le gouvernement est en train de faire, où on dit qu'il faut mettre des grains, le gouvernement est en train de mettre des grains dans des banques de céréales, et ces commerçants ne payent pas de taxes exonérées. Donc, il n'y a pas de recettes. Mais c'est des produits qui viennent, qui sont payés de l'extérieur, des riz qui viennent de l'extérieur et qu'on consomme au niveau local. Donc, moi, je pense que c'est pas... On n'est pas prêt pour vraiment ne pas protéger nos frontières. Si on amène des produits de l'extérieur, il faut les taxer très fort pour qu'il y ait quand même une compensation de l'autre côté. Il ne faut pas qu'on perde de tous les côtés.
Mais c'est exactement ça que l'Organisation mondiale du commerce interdit. L'importation, la taxation de l'importation et de l'exportation aussi.
Oui, l'exportation, on ne gagne pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à exporter. C'est au niveau de l'importation que nous gagnons. Donc nous préférons protéger notre économie en taxant beaucoup plus fort. Je pense que certains pays du Nord ont eu à le faire dans le temps pour protéger leur économie. Donc nous aussi, on est à leur stade. Il faut qu'on nous donne les moyens et le temps de protéger nos économies pour qu'on ne nous oblige pas à diminuer des taxes et à ouvrir les frontières pour que n'importe quel produit puisse rentrer dans le pays, sans contrôle même.
Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de fermer vos frontières pour protéger votre marché.
Bon, l'État n'a pas le droit, mais nous, mouvement social, on a le droit de dire non. Et c'est pour cela que nous militons au niveau de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement pour dire non aux multinationales, non et à tous les gouvernements du Nord, surtout le G8, qui nous imposent certaines choses, non à la Banque mondiale, non au Fonds monétaire, non à l'Organisation mondiale du commerce. Nous ne sommes pas d'accord qu'on nous impose des politiques néolibérales. Je crois que nous sommes des pays indépendants, des États indépendants, et donc qu'on nous laisse, on sait ce qu'on veut, qu'on laisse le gouvernement discuter avec le peuple et qu'on, ensemble, on essaie de faire sortir quelque chose qui peut être utile à la population malienne et ou à la population africaine. C'est ça que nous réclamons.
Programme de restauration structurelle?
De renationalisation. Ouais, nous demandons à nationaliser nos entreprises, les entreprises qui sont vendues à des entreprises multinationales. Et nous demandons aussi qu'on respecte notre souveraineté. Donc, nous sommes des pays indépendants. Donc, la politique intérieure et extérieure de notre pays ne doit pas être influencée du Nord, des plus riches surtout. Des plus riches. Donc, qu'on nous laisse une liberté totale de gérer les affaires nationales.
Est-ce que ce n'est pas parce que des anciens chefs d'État maliens, des anciens ministres, ont mené une mauvaise politique que vous êtes dans la situation d'aujourd'hui, soumis à la volonté des pays occidentaux, des pays du Nord, des pays riches, qui vous imposent leurs règles?
Bon, c'est vrai, il y a certains gouvernements qui ont eu à faire des détournements, mais ces détournements ont été faits avec la complicité de leurs partenaires. Et on sait qu'aujourd'hui en Afrique, pour mettre un président à une place, c'est avec le soutien d'un autre président d'un pays du Nord. Ça, tout le monde le sait. Donc on dit qu'on est indépendant, mais on n'a pas l'indépendance totale. Le gouvernement n'a pas la liberté totale d'agir.
Prenons Faure Gnassingbé comme exemple.
Bon, il y a Faure Gnassingbé, il y a plusieurs autres comme exemple. Donc, on nous impose les présidents. Les libertés, les élections ne sont pas du tout une élection transparente où on sait qu'il y a eu des votes, il y a des voix, telle personne a passé. C'est toujours, il y a des mains extérieures qui sont là, invisibles, qui essaient de donner une puissance à un président pour être le président. On sait d'avance telle ou telle personne va être président. Donc, quand les responsables de ces pays du Nord, les pays riches, vont commencer à se retirer de la politique intérieure de nos pays, je crois que au niveau national, nous pourrons, dans une transparence, gérer les affaires de l'État. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ont pris conscience, il y a beaucoup de citoyens maliens qui ont pris conscience de la situation actuelle et qui sont prêts à dénoncer tous ceux qui vont gérer mal ou bien qui vont détourner et pour les amener à l'extérieur. Bon, s'il y a des détournements, dans les cas où il y a eu des détournements à l'extérieur, Jusqu'à présent, on n'a pas vu de rapatriement de fonds. Donc, s'il y a détournement et que c'est vrai que c'est gardé dans une banque au niveau de la Suisse ou bien au niveau de n'importe quel pays du Nord, que ce gouvernement accepte de nous rapatrier les fonds, là, on saura que vraiment, il n'y a pas une complicité. Mais si on dit que nos chefs d'État détournent de l'argent ou bien nos ministres détournent de l'argent, ils les amènent dans des banques et que jamais on ne transfère pas ces sommes, c'est qu'il y a une complicité quelque part. Ce n'est pas seulement le chef d'État ou bien le ministre qui a détourné.
Quel exemple est-ce que vous pouvez donner, par exemple?
Je n'ai pas d'exemple concret, mais je sais que s'il y a des cas, on le dit souvent qu'il y a des cas, qu'on nous amène cette argent-là, on est sûr que vraiment il y a eu des détournements et que l'argent existe. Mais qu'on nous dise dans les journaux, à la radio, qu'on a découvert qu'il y a tel milliard dans telle banque que nous, on n'a pas encore vu dans nos comptes du Trésor, on ne dira pas que c'est vrai. Et on dira, même si c'est vrai, c'est une complicité. Donc, il faut que les déclarations soient des déclarations transparentes, des déclarations réelles, qui puissent convaincre nous, nationaux, au niveau de nos pays.
Quel pays pose le plus de poids sur la politique malienne?
Bon, les relations entre la France et le Mali, on sait que quand même que c'est des relations de colonisation à État indépendant et c'est des relations qui sont des relations très étroites. Donc, le Mali a été colonisé par la France et la France a beaucoup de poids sur le Mali. Et ce n'est pas la France seulement, il y a aussi les États-Unis avec leur puissance au niveau international aussi qui ont un poids sur notre pays. Donc, comme on le voit, il y a toujours, et avec l'aide au développement, il y a tel poids sur tel pays, tel poids sur tel autre pays. Donc, comme on le voit, l'aide au développement devient une arme de politique qui sert vraiment entre les relations entre argentiers et pays qui prend l'aide entre pays et créanciers.
Si vous dites que même, enfin, si je vous comprends bien, vous dites que même aujourd'hui, il y a aussi une mauvaise gestion de fonds. À gauche, à droite, il y a de la corruption aussi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est aussi une histoire actuelle. S'il y aura une annulation de la dette, il n'y a plus aucun contrôle de l'extérieur. Est-ce que ça ne va pas aggraver la situation?
Bon, s'il y a une annulation, le contrôle de l'extérieur, ce n'est pas une nécessité. Je crois que le contrôle doit être interne. Ce sont les citoyens qui doivent demander des comptes au gouvernement et le gouvernement doit rendre compte aux citoyens. Et donc, nous, au niveau des CAD, comme je vous l'ai dit, nous venons de faire l'étude de la dette, nous ne l'avons pas encore finalisée. Nous avons aussi l'intention de faire l'audit de la dette pour voir tel fonds a été utilisé pour telle ou telle chose. On a fait seulement que quelques exemples. Et donc, au moment opportun, nous allons les publier. Donc, je crois que, comme je l'ai dit, les citoyens maliens sont conscients de ce qui se passe aujourd'hui. Et avec la démocratie, je crois que c'est une opportunité, même si la démocratie n'est pas réelle, il y a quand même un côté positif que nous devons prendre pour pouvoir l'exploiter et à demander des comptes au gouvernement de nos pays. Je crois qu'on peut toujours demander des comptes.
Quelles sont les priorités, les solutions pour le développement de ce pays? Quelle proposition est-ce que quelle solution est-ce que le CAD Mali propose?
Pour le développement du pays, nous demandons d'abord l'annulation à 100% de la dette extérieure.
C'est-à-dire aussi bien les dettes multilatérales
que la dette bilatérale. Le Mali n'a pas de dette privée. Donc, qu'il y ait annulation à 100% de la dette extérieure. Et ensuite, au moment où le gouvernement va monter des projets, il faut que ces projets soient des projets issus des communautés à la base. Que ce ne soit pas des projets, seulement des projets de bureau qu'on va présenter à des bailleurs de fonds, mais que ces bailleurs de fonds, s'ils veulent bien financer n'importe quel projet du pays, qu'ils donnent le temps au gouvernement de discuter avec les communautés à la base, de voir leurs priorités et de les monter en projet pour les présenter à ces bailleurs de fonds. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, et au niveau des privatisations, il faut qu'on arrête à brader, parce que ce ne sont pas des privatisations qui servent à l'État malien aujourd'hui, mais c'est des bradages de nos entreprises, et donc c'est pas l'État qui gagne, mais c'est les nouveaux acquéreurs, les multinationales qui gagnent. Donc il faut qu'on arrête les bradages de nos entreprises, de nos sociétés entreprises d'État. Un autre point, au niveau du marché, au niveau du marché extérieur, donc qu'on nous laisse protéger l'économie, que l'économie malienne ne soit pas libéralisée à 100%, où n'importe quel produit peut rentrer sans contrôle, sans payer de taxes. Donc, pas de libéralisation de l'économie malienne à l'heure actuelle. Une protection des frontières, une protection de l'économie. Donc, c'est les quelques recommandations au niveau des CAD, entre autres.
Quel était le CAD, le Jubilé 2000, a aussi organisé le troisième forum des peuples cette année. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que c'est exactement un forum des peuples? Et quels sont les résultats?
Le forum de cette année, c'est le quatrième forum des peuples. Le premier forum a été fait à Sibi en 2002. Et c'est en ce temps qu'on mettait le NEPAD sur la table au niveau de Kananaskis au Canada. Et on s'est dit, un document qui va prendre en compte la destinée de tout le peuple africain, il faut qu'on prenne ce document et le rejeter, parce qu'on n'était pas informé du contenu du document. La première monture, c'était en anglais. Après, c'était un document de plusieurs pages dont ce n'est que quelques chefs d'État qui l'ont fait. Même les autres chefs n'étaient pas au courant. On s'est dit, notre premier objectif, c'est de rassembler le peuple malien et qu'ensemble, on essaie de parler du NEPAD. Et donc, la conclusion était qu'on n'était pas pour le NEPAD parce qu'on n'a pas été associé à la conception.
Donc, le NEPAD, il faut peut-être expliquer.
Le NEPAD, c'est le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est un document qui a été élaboré par le président du Sénégal, Ablaye Wade, et Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, le président Bouteflika de l'Algérie et le président Obasanjo du Nigeria. Donc ce n'est que quatre chefs d'État qui ont élaboré au nom de l'Afrique tout entière un document de développement pour les Africains. Et donc comme c'était à des moments où les mouvements sociaux sont en train de réclamer l'annulation de la dette, et que les pays riches ne veulent plus donner de la dette, une dette encore, ils se sont dit, voilà une opportunité. Maintenant, on va essayer de voir ce document, ce nouveau document. On va investir à travers ce document. Donc, le deuxième forum aussi, c'était à Sibi. Parce que pendant le premier forum, on a parlé de beaucoup de politique. C'était la première fois que les villageois entendent de dette extérieure, de NEPAD, de politique et de programmes d'ajustement structurel, beaucoup de choses dont ils ne sont pas habitués. Donc ça les a beaucoup intéressés et il fallait revenir encore une deuxième fois échanger avec eux. Donc on est reparti à Sibi en 2003 où il y a eu le forum et c'est là que les communautés ont beaucoup parlé de leurs problèmes, des problèmes qu'ils vivent au niveau local. Et ils ont vu que toutes les politiques dont on a parlé, ces politiques sont des politiques qui sont en relation avec leur vie quotidienne. Et donc, les communautés locales se sont beaucoup intéressées à ces politiques et les autres associations qui ne l'avaient pas dans leur agenda, ils se sont intéressés à ces politiques internationales qui nous gouvernent. Et donc, en 2002, on était 250 participants. En 2003, on était 400. Et donc, on a édité le troisième forum à Kita, parce qu'on venait de commencer la privatisation du chemin de fer. Et donc, il fallait discuter avec les riverains du chemin de fer des problèmes de la privatisation du chemin de fer. Donc, c'était le premier point à l'ordre du jour, en plus des autres politiques, accord de Cotonou, CCLP, et PTTE, et AGOA et autres dont on a parlé. Donc, on a parlé des privatisations, on a parlé des besoins sociaux, l'éducation, la santé, et on a parlé des OGM. Donc, c'était le moment aussi où on commençait à parler d'introduction des OGM officiellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'était un bon moment pour donner l'information sur qu'est-ce que c'est que l'OGM. Et donc, là, on était 700 participants. Donc, vous voyez, de 2002 à 2004, les participants ont passé de 200 à 700 participants parce que tous les Maliens ont envie de venir parler de leurs problèmes, de discuter aussi, de comprendre ces nouvelles politiques, parce que c'est nouvelle pour ces communautés qui ne les connaissent pas. C'est vraiment beaucoup de villageois, d'autres ne parlent pas du tout français. Donc les échanges étaient non seulement en langue nationale, mais aussi en français et en bambara, et en autre langue. Donc il y a eu aussi d'autres Africains qui sont venus se joindre à nous dans cette lutte citoyenne. Donc le cercle s'agrandit et cette année, c'est à Fana qu'on a fait le forum. Et là, on était environ 1500 participants. Il y avait beaucoup d'Africains. Il y a aussi beaucoup de politiciens, c'est quand même remarquable. Et c'est la première fois que les politiques participent au forum des peuples. Et ça, là, ça fait peur à beaucoup de gens qui ont vu à la télé. Ils ont dit, ah, votre histoire, ça devient politique. Mais nous, on est satisfait que les politiciennes viennent écouter le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote et qui leur donne leur voix pour qu'ils soient des conseillers ou bien des députés ou bien des présidents. Donc c'est quand même très important. Donc c'est un espace d'échange, un espace de discussion et de proposition d'alternatives. Et donc nous avons beaucoup parlé de la privatisation et de la compagnie malienne des textiles, parce que c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et le gouvernement avec leurs partenaires veulent le privatiser d'ici la fin de l'année 2006. Et donc nous aussi, nous mettons la pression. Nous avons fait signer des pétitions. Il y a eu des déclarations. Les paysans, ils ont fait la chaîne plus de 100 pour dire non, qu'ils ne sont pas pour la privatisation de la compagnie malienne des textiles. Et tous les participants ont signé presque la banderole que nous allons bientôt remettre au niveau du gouvernement.
C'est pas parce qu'ils vous ont entendu qu'ils vont vous écouter aussi.
Qui?
Votre gouvernement.
Et notre gouvernement, je crois qu'ils nous ont entendus et ils sont satisfaits aussi, parce que nous avons interpellé une lettre de félicitations du président Amadou Toumani Touré et aux organisations de la société civile pour le Forum des peuples. Donc, et aussi pour notre lutte pour l'annulation de la dette extérieure. Donc cette lettre, ça n'a pas été adressée à CAD, mais nous pensons que c'est une erreur parce que ça a été adressé à un autre collectif et nous sommes en train de préparer la lettre de réponse au président pour lui dire qu'il ne se trompe pas d'acteur. Donc on va lui demander de redresser politiquement cette erreur politique ou bien cette erreur administrative qui s'est faite au niveau de son secrétariat.
La cinquième édition, ça va être encore au Mali ou est-ce que vous allez changer de pays? Si c'est un forum des peuples, quatre fois au Mali? n'est-ce pas temps d'aller voyager en Afrique?
Bon, le Forum des peuples, c'est une initiative malienne. C'est le mouvement citoyen malien qui l'a initié pour aller vers la base et pour leur donner des informations par rapport à la politique extérieure et intérieure du Mali et par rapport au développement du pays. Et surtout, c'est pour dire non au G8, c'est le contre-sommet du G8, et c'est pour cela que chaque fois que le G8 se réunit, c'est à cette période qu'on s'arrange pour nous réunir et parler de notre problème de développement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains et d'Européens et d'Américains qui y participent, mais c'est une initiative malienne et nous pensons que ça doit rester au niveau du Mali. Et l'année prochaine, si Dieu le veut, nous pensons que le Forum des peuples serait au niveau de Gao. Parce que depuis 2004, les mouvements citoyens et la communauté se retrouvant au nord du Mali ont demandé à ce que on vienne tenir le forum au niveau de Gao. Mais pour des problèmes de moyens logistiques, il est très difficile vu que Gao et Bamako est très loin, ça fait plus de 1200 km, et pour qu'on puisse amener toutes les délégations à Gao sans difficulté. Donc nous sommes en train de réfléchir, mais je pense bien que cette année, le forum se tiendra à Gao, puisqu'il y a eu une coalition des régions de Kidal, de Tombouctou et de Gao qui sont venus demander au niveau du forum des peuples à Fana que le forum se tienne à Gao cette fois-ci au profit des organisations et des communautés du Nord pour qu'eux aussi puissent profiter des informations que nous allons donner et qu'eux aussi puissent échanger avec le peuple malien tout entier et africain et mondial. Mais le forum des peuples est en train de donner des idées à d'autres pays africains. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le forum social ivoirien qui est né et qui se fait. Nous participons déjà, ça fait deux années qu'on y participe. Il y a aussi, au niveau du Niger, les mouvements citoyens qui demandent l'annulation de la dette. Ils sont réunis en coalition et nous collaborons. Nous avons participé à la caravane qui a été organisée par les Nigériens. Et au niveau du Bénin, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens, ils sont organisés et créés le Forum social du Bénin. Et publiquement, ils ont dit que c'est grâce au Forum des peuples du Mali qu'ils ont eu les idées et la force pour créer cet espace au niveau du Bénin.